Radio Bark, notre 25e avec, pour la troisième partie, comme nous l'annoncions au début, invité Jacques Bascou, donc président de la communauté d'agglomération, alias le Grand Narbonne. Alors Jacques Bascou, on vous reçoit assez régulièrement pour faire le point, pour voir un petit peu où en sont les choses. On va peut-être commencer par une allusion tout à l'heure à... enfin, pas une allusion, on en a parlé largement, mais sous-entendu, cette aréna va exister. Aujourd'hui, c'est une conception-réalisation d'ailleurs de la ville, c'est municipal. Il a été évoqué plusieurs fois que cette aréna pourrait devenir, et finalement dans le fond, d'intérêt communautaire et qu'éventuellement, il serait bien qu'un jour, il soit géré par la communauté d'agglomération. Et d'ailleurs, un de nos récents invités, qui est un de vos vice-présidents, Henri Martin, lui a pris position très clairement là-dessus en disant il faudrait qu'on en discute, mais il serait normal à terme que cette aréna fût géré par l'agglomération. Alors, qu'en pense l'actuel président du Grand Narbonne ?
Effectivement, actuel, parce que le futur président, je pense, peut organiser effectivement un débat. Simplement, je vous rappelle que depuis le début, l'argumentation de Didier Mouly, c'est de dire que c'est un projet municipal, qui était dans le programme municipal. Et donc, il a souhaité réaliser au nom de la municipalité et non pas au nom de l'intercommunalité. De plus, nous n'avons jamais été saisis officiellement d'une réunion de travail pour donc voir l'utilité de cet équipement, puisque nous avions, nous, un projet aussi de salle qui n'était pas aussi coûteux et aussi ambitieux, mais nous avions eu des contacts qui nous avaient permis de voir que la jauge pour donc une salle sur Narbonne, c'est 1000 ou 1200 places. Donc ça aurait été effectivement intéressant que l'on puisse donner nos arguments, parce que ce qu'on nous conteste depuis le début, en tout cas moi je conteste, l'utilité donc de cet équipement par rapport aux équipements qu'il y a dans la région. Notamment, je rappellerai que l'aréna de Montpellier aujourd'hui est en déficit, il va falloir qu'il refasse des investissements. Donc quand on fait un projet, il faut savoir quels sont les tenants, les aboutissants et surtout ce que ça va coûter aux contribuables. Alors on peut avoir dans une salle de spectacle un déficit, mais je pense que si on se place au plan municipal comme le fait Didier Mouly, ben à ce moment-là, il faut regarder quelles sont les priorités au niveau des politiques municipales. Et si sur Narbonne, il n'y a pas d'autres projets qui sont plus importants qu'une salle. Ça, c'est un débat citoyen qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. En ce qui concerne l'agglomération aussi, il peut y avoir ce débat. Moi, je suis pas contre, mais à condition que l'ensemble des élus communautaires disent là aussi s'il y a des priorités au niveau de l'agglomération, s'il vaut mieux donner, s'il vaut mieux investir sur le port de la Nouvelle, sur l'aéroport, sur d'autres équipements qui, à terme, peuvent effectivement ramener de l'activité, donc de l'emploi et des ressources pour l'agglomération. Donc moi, je suis pour effectivement discuter. J'ai même proposé, puisque donc y a une salle communale, nous on fait un parc des expositions qui n'a rien à voir, parce que le parc des expositions, c'est un outil économique, j'ai eu l'occasion de vous le dire ici sur cette antenne, mais à un moment, l'intérêt général, puisqu'on se place au niveau de l'intérêt général, peut faire qu'on puisse avoir une coopération, ou en tout cas une convention, pour des utilisations communes. Donc ça, c'est effectivement un débat qui aura lieu après, sans doute, donc les élections, auxquelles je ne participerai pas, je vous le redis. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a jamais été saisi. Depuis le début, on est sur un sujet polémique. À un moment, l'association, là, en fait, touche pas à mon parc, donc disait, mais pourquoi vous ne le faites pas sur le parking du parc des expositions, puisqu'il défendait finalement l'espace arboré, donc l'espace de promenade. Mais le parking donc du parc des expositions était et est à la mairie. Donc le maire aurait très bien pu le faire là. Donc si vous voulez, il y a eu des arguments polémiques qui, quelque part, et c'est le fond du problème. Je ne vais pas revenir sur le problème juridique qui a été bien développé hier par un journaliste. C'est pas là-dessus que je vais me positionner. Mais finalement, ce qu'a voulu faire le maire, c'est un peu une stratégie ancienne des années 60. Un mandat, une réalisation, et il fallait effectivement le faire avant les élections pour, d'ailleurs, les portes ouvertes ce week-end, c'est pour montrer que finalement c'est une belle réalisation. Mais je crois que quand on est un gestionnaire, il faut regarder plus loin et quelque part voir quelles seront les conséquences, notamment financières, pour l'ensemble des contribuables, parce qu'il y aura un déficit, c'est sûr. Aujourd'hui, la santé financière de la ville n'est pas très bonne, malgré ce que certains peuvent dire. Et donc, c'est un sujet qu'il aurait fallu aborder sérieusement.
Voilà. Et alors, Jacques Bascou, juste de l'autre côté de la route, il y a le parc des expositions. Vous, justement, agglomération Grand Narbonne, vous avez un projet qui suit son cours de développement. Alors, projet économique, comme vous le disiez.
Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, on est au centre de la région et c'est important par rapport à des villes comme Carcassonne de se positionner sur ce créneau puisqu'on a des demandes de séminaires, plus de salons et de foires puisque ça a changé. Donc, on n'a pas besoin d'autant de parking, mais ce qu'il faut, c'est une salle principale, des salles de travail attenantes de la restauration qu'on a négocié avec des restaurateurs. Mais on est vraiment sur l'outil économique. Et contrairement, si vous voulez, à l'Arena, nous, ça fait des années. On a déjà, dans le mandat précédent, on a fait une étude complémentaire et aujourd'hui il y a la place pour cet équipement. D'ailleurs il y a une DSP, c'est celui qui gère Agen et Montauban qui a eu cette DSP et ce sont des structures qui marchent bien. Voilà, donc nous c'est vraiment un outil économique pour permettre, alors bien sûr là aussi il faudra qu'on ait des contacts et en tout cas une vision commune avec la commune puisque bon ça va être aussi un outil touristique. Bon, la ville de Narbonne a souhaité garder son office de tourisme, mais il faudra qu'on travaille bien sûr avec eux pour l'hébergement, pour la restauration. Voilà, donc je crois que au-delà, si vous voulez, des polémiques qui sont souvent des polémiques attachées aux élections, aux échéances électorales, il faudra un moment que dans l'intérêt général, on puisse travailler ensemble. Et j'espère que la prochaine majorité pourra le faire.
Alors, quelques mots quand même sur ce projet. Vous parlez de la DSP qui existe, il y a un bâtiment qui existe, qui a une trentaine d'années, mais vous avez un projet d'extension. En deux mots, de quoi s'agit-il ?
Mais si vous voulez, c'est de se mettre aux normes aujourd'hui des salles de ce type. C'est-à-dire, c'est plus comme des grandes salles pour les salons, même s'il va y avoir un hall qui va permettre de faire quelques salons locaux, comme le salon du meuble. Mais c'est surtout, si vous voulez, des salles attenantes, avec à la fois tous les moyens modernes, numériques et tout ça, pour pouvoir travailler. Donc, en gros, ce sont des séminaires de syndicats, d'associations qui viennent en bus, qui viennent en train et qui travaillent, c'est le congrès par exemple de la Maïf, donc qui tourne dans toute la France et en plus Narbonne a quand même des atouts touristiques qui fait qu'il y a une notoriété qui peut amener aussi beaucoup de salons et de séminaires.
Oui, la clientèle visée aujourd'hui c'est plutôt les séminaires.
Oui, c'est plutôt des séminaires.
Oui.
Ce qui est d'ailleurs une demande. Hein. Oui. Ça peut être des séminaires, mais ça peut être aussi, vous avez la région par exemple qui demande, donc on est au centre et donc pour le moment c'est plutôt le théâtre qui fait fonction d'eux, mais c'est pas la vocation du théâtre, donc on est sollicité régulièrement parce qu'on est au centre de la région.
Oui, une remarque Michel.
Oui Jean-Claude, les parcs des expos dont j'ai vu arriver la première génération sont aujourd'hui des outils qui dans la configuration de l'époque sont complètement obsolètes. Là, pour preuve...
Oui, c'est ce que dit Jacques Bascou.
Pour preuve, la région, le parc des expos de Montpellier, sais-tu combien la région va investir ?
Oui, enfin très cher, tu l'as déjà évoqué.
80 millions d'euros. 80 millions, pourquoi faire ? Pas seulement pour faire des salons, en fait. Hein. Pas seulement. Non. Ils vont y installer des pépinières d'entreprise. Ils vont y installer des entreprises spécialisées. Etc. Ils vont... Etc.
Ouais,
et je me disais, mais très rapidement, une idée comme ça, bon, balancée en l'air. L'agglo aujourd'hui, en fait, les services sont à l'étroit à la Banque de France. D'accord ? Par contre, l'INES, ex-télécom, il y a beaucoup d'espaces vides. Et il y a notamment des pépinières avec des services d'entreprise. Ouais. Pourquoi ne pas déplacer effectivement le contenu de l'INES fait, dans un parc des expos modernes fait, qui irait dans le centre de celui de Montpellier et puis bon, transférer les services
et transférer l'administration.
À l'INES.
Je vais répondre. INES est un bâtiment qui a été financé notamment par l'Europe. Et donc les activités qui sont à l'intérieur doivent être des activités qui sont liées avec
l'objet. Qui sont conformes à cette
solution. Conformes, puisque vous savez, il y a des contrôles d'Europe. Alors en revanche, on peut travailler, bien sûr, c'est le but. Hein, on a le parc méditerranéen de l'innovation, on a également aussi INES, et on aura le parc des expos. Donc il va y avoir une synergie. D'ailleurs, je note, M. Santo, que vous aviez ironisé, je crois, dans un... dans un billet sur les pépinières entreprises. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans sur la création d'emplois. Je crois qu'on investit, et c'est vrai qu'on investit pour l'avenir. Et si vous avez des entreprises comme CDA, qui aujourd'hui rayonne dans le monde, qui a commencé en pépinière d'entreprise avec 3 employés, et qui a maintenant plus de 160 employés, vous avez la chocolaterie des Corbières, à Montredon, c'est pareil. Voilà, il y a fort longtemps. Donc le concept de pépinière d'entreprise, c'est effectivement investir pour l'avenir. C'est pas un rapport immédiat. On a fait aussi une formation.
Comme son nom l'indique, c'est vraiment semé.
Voilà. Mais bien sûr, on a aussi une formation sur le numérique. Et Monsieur Auger, qui est le doyen de l'université de Montpellier, quand il est venu ici, il nous a dit bon, on forme ici pour des métiers qui n'existent pas encore. Ça peut paraître aberrant, mais c'est ça la réalité. C'est qu'à un certain moment, et c'est le choix que l'on a fait de l'innovation, dans le numérique. D'ailleurs, on est reconnu, on a plusieurs labels. Alors le problème, c'est pas forcément d'avoir des labels, mais c'est de permettre justement, on parlait de la jeunesse qui s'intéresse pas à la politique, c'est de pouvoir faire des formations pour des jeunes qui sont souvent sortis du circuit scolaire et qui, par exemple, sur le numérique, arrivent à avoir une formation qui correspond à la demande des entreprises du territoire.
Voilà pour les pépinières et leur utilité à terme. Revenons sur la géographie à laquelle on fait allusion, c'est-à-dire d'un tout près, il y aura l'aréna, le parc des expositions, le théâtre est pas loin. Et il a été évoqué d'ailleurs ici à ce même micro par certains, dont Michel, mais des élus qui l'envisageraient éventuellement, d'une gestion commune entre ces trois structures, le théâtre, le parc des expos et l'aréna. Est-ce que ça vous semble absurde ou pas, Jacques Bascou?
Oui, si vous voulez, il y a effectivement des règles. On revient au débat qu'on avait tout à l'heure. Mais un théâtre, c'est géré par une association, donc, et notamment l'État qui veille à ce qu'il y ait
une indépendance. Oui, celui-ci, scène nationale.
Voilà, scène nationale, donc il faut qu'il y ait une gestion propre. Et d'ailleurs, les élus ne peuvent pas s'immiscer directement dans la gestion, puisque dans le bureau, il n'y a pas d'élus. Des collectivités qui financent le théâtre. L'aréna, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la mesure où cette structure existe, on peut avoir, je l'ai proposé d'ailleurs au maire, hein, parce que bon, ce qu'il faut, et d'ailleurs les Narbonnais le soulignent, il ne faut pas qu'il y ait un gaspillage, et donc on peut avoir des conventions d'utilisation de la salle d'aréna sur certains événements. Voilà, donc le problème, c'est de trouver une solution, mais avoir une gestion commune, bon, c'est absurde.
Oui, donc pour vous, il faut trois gestions différentes. Pour le théâtre, est-il inéluctable et éternel que ce théâtre de Narbonne soit scène nationale ?
Ça, c'est un choix qui a été fait il y a quelques années, parle d'ailleurs le père du maire actuel. Et bon, il est évident que ça a un coût. Donc les collectivités participent, notamment l'État. Mais je pense que c'est important d'avoir une scène nationale sur donc un département, puisque c'est une scène nationale du département, la raison pour laquelle le conseil départemental intervient. Et donc pour avoir justement une programmation. Voilà, après... une scène nationale, c'est ce qui est fait de plus en plus, de travailler avec les scolaires, d'avoir un rayonnement sur les communes. Bon, c'est peut-être faire un peu plus d'efforts dans ce sens, mais bon, ça pose d'autres problèmes, hein, qui sont des problèmes notamment de logistique pour transporter les élèves, donc on essaie de résoudre ça. Mais on se bat, enfin, beaucoup de villes se battent au niveau national pour avoir une scène nationale. Je crois que c'est un atout.
Oui, donc il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages certains, tels que vous le décrivez. Une question, alors, un peu plus de fond, alors politique au bon sens du terme de fond. On a parlé tout à l'heure de ce point de vue du maire de Florac. Vous avez été maire de Narbonne, vous êtes président d'une communauté d'agglomération, c'est-à-dire encore proche des citoyens. Comment ressentez-vous cette analyse qu'on a exposée tout à l'heure?
Ah ben, moi, je trouve que l'analyse est tout à fait judicieuse. Et d'ailleurs, bon, j'ai eu l'occasion ici d'exposer un peu des différends que j'avais, et c'est une raison pour laquelle je me suis un peu éloigné du Parti Socialiste, c'est que je crois que sur la décentralisation, le Parti Socialiste a échoué. Et aujourd'hui, il y avait une structuration des collectivités qui était relativement cohérente, hein, c'est-à-dire on définit les compétences, puisqu'aujourd'hui il y a des compétences qui peuvent s'exercer, par exemple au niveau de l'agglomération, l'eau, l'assainissement, les communes. communes ne sont pas en mesure d'assumer cette compétence. Donc on détermine les compétences, on détermine les territoires qui sont les plus pertinents pour appliquer ces compétences, et ensuite donc on définit la fiscalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc les gens, vous l'avez dit, ne comprennent plus rien. Les maires ont de plus en plus de responsabilités. C'est de plus en plus difficile juridiquement. Donc moi, je suis pour la commune parce que c'est le lieu, si vous voulez, le lien social, c'est l'animation, c'est comme dans des quartiers. Il faut qu'il y ait des lieux de vie. Et ensuite, il faut qu'il y ait une structure comme une agglomération qui s'inscrit dans un schéma régional, mais une agglomération qui donne des services aux communes, pour permettre aux maires, sur l'informatique, sur le juridique, sur l'étude des marchés, qui leur permettent de faire leur boulot, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent un peu délaissés. Voilà, donc, pour moi, il faut qu'on arrive à une clarification. Et ensuite, vous parliez tout à l'heure aussi du fossé qu'il y avait. Quand, par exemple, il y avait un débat jeudi soir, moi, je ne l'ai pas regardé, mais en tout cas, parce que ça ne m'intéresse plus. Si vous laissez des postures, bon, et ça n'intéresse plus personne. Le problème, c'est qu'à un moment, il ne faut pas faire de la démagogie, il faut faire de la pédagogie. Il faut dire à nos concitoyens quels sont les enjeux, mais à un moment, il faut être courageux. Et dire, voilà. Et ça, si vous voulez, c'est pas... aujourd'hui, les gens sont frileux, il y a une pression des réseaux sociaux, il y a une pression aussi des médias, qui fait que un maire, il est dans le court terme, hein. Il n'a comme vision, et je ne reparlerai pas de l'aréna, mais il n'a comme vision que l'échéance électorale suivante qu'il veut gagner, il s'inscrit pas dans la continuité. Et à force de dire oui, de faire de la démagogie, les gens se tournent d'un côté, puis vont de l'autre, et puis se disent déçus, ne votent pas, ou votent pour des extrêmes.
Oui, et bon, et l'épisode des Gilets jaunes, qui n'est pas terminé d'ailleurs, avec des violences extrêmes sur le territoire narbonnais, mais pas seulement, là encore, comment ressentez-vous ce genre de choses? Est-ce que pour vous, c'est une crise qui était prévisible?
Pour moi, c'est une crise qui était prévisible. Bon, il y a un certain nombre de revendications qui sont portées, qui sont tout à fait légitimes. Cela dit, je ne partage pas la façon de fonctionner des Gilets jaunes, mais quelque part, je me tais dans la mesure où j'estime que la classe politique a quand même une responsabilité dans cette situation.
Responsabilité. Alors, vous dites que certains maires sont un petit peu dans le désarroi. Les citoyens, apparemment, le sont, devant notamment des inégalités criantes. Est-ce que c'est ça que vous ressentez?
La responsabilité, c'est d'abord, je pense, nos institutions qui représentent plus les citoyens. Donc moi, j'étais toujours... Je pense que le fait que... Alors je ne vais pas rentrer dans les débats techniques, mais qu'on ait changé le calendrier électoral, c'est-à-dire que les présidentielles sont avant les législatives, automatiquement, il n'y a plus de débat dans les partis, puisque finalement, il faut avoir des supporters pour un président. Donc c'est la pipolisation, c'est la personnalisation qui, aujourd'hui, fait avec... on est sur des postures que l'Assemblée nationale est le reflet, finalement, du président de la République. Et alors qu'avant, au moins, les partis politiques faisaient des propositions, voyaient s'il y avait des propositions communes, si on pouvait avoir, que ce soit à droite ou à gauche, hein, parce que ce soit la droite ou la gauche, elle n'était pas homogène, mais ensuite, donc, il y avait une personne qui portait finalement le programme aux élections présidentielles.
Oui. Ce qui est flagrant, justement, voilà. Là, c'est que, par exemple, M. Macron a été élu de façon majoritaire incontestable, mais 2 ans plus tard, on s'aperçoit que l'implantation sur le terrain ne colle pas, ne prend pas, la mayonnaise
non,
ne prend pas, ça, d'une certaine
si
façon.
Vous voulez, c'est aussi moins un combat, alors c'est pas forcément le numéro 6e République, mais aujourd'hui, il faut réformer, d'après moi, les institutions. Réformer les institutions, c'est introduire de la proportionnelle à l'Assemblée, parce qu'il vaut mieux que les gens puissent, s'ils veulent être reconnus, il faut qu'ils soient représentés. Le mode de scrutin aujourd'hui ne permet pas de représenter tout le monde. Donc le débat politique, il doit avoir lieu, puisque c'est dans la Constitution, hein, c'est les partis politiques qui animent le débat politique. Le débat politique doit être à l'Assemblée. Bon, il y a la réforme aussi, si vous voulez, parce que les gens ont l'impression aussi que ça prend du temps. Vous avez parlé tout à l'heure des règles et tout ça. Mais c'est vrai que les problèmes des navettes entre aujourd'hui l'Assemblée ou un conseil des ministres, il y a une mesure qui est arrêtée. Il vous faut attendre 2 ans, voire plus, qu'il y a des décrets d'application, et les gens, ça ne le savent pas forcément, et ils ont l'impression que ce sont des promesses. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Moi, je suis pour une réforme institutionnelle, le non-cumul des mandats, je me le suis appliqué à moi-même. Avoir plus un régime parlementaire, ça éviterait des dérives comme on a aujourd'hui, où on a une présidentialisation, tout en étant dans nos esprits, toujours dans le régime parlementaire.
Oui. Alors, en conclusion, Jacques Bascou, je le disais, vous êtes président d'Aglo, vous avez dit clairement que vous ne le seriez pas dans le prochain mandat. Quels sont les souhaits que vous émettriez, justement, en partant? Parce que finalement, on s'aperçoit que cet Aglo, depuis quelques années, a pris une certaine cohérence, une certaine existence, si je puis dire. Ça s'est passé, entre autres, pas exclusivement, mais entre autres, sous votre mandat. Quel serait, je dirais pas votre testament, mais votre souhait du fonctionnement prochain de l'agglomération du Grand Narbonne?
Écoutez, moi j'ai essayé dans ce mandat, parce que c'est justement, c'était pas des majorités politiques, hein, j'ai essayé finalement d'associer tout le monde, ceux qui le souhaitaient et qui quelque part voulaient dans un contrat de gestion, en partageant un programme et un mode de fonctionnement, de travailler. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui aujourd'hui sont vice-présidents, donc qui étaient sur la liste adverse quand je me suis présenté donc pour la présidence de l'agglomération. Et je crois que finalement, au-delà, si vous voulez, des postures que l'on peut comprendre, je vous dis ici, la grille de lecture, c'est uniquement les élections municipales, au-delà de ces postures, je pense que petit à petit, on arrivera à avoir une gestion dans l'intérêt du territoire. En tout cas, moi j'ai essayé de le faire, j'ai pas été sectaire, il y a des gens qui ne votent pas le budget, ils ont vu des projets qui étaient retenus dans leur commune parce que c'était des projets d'intérêt général. Bon, j'ai essayé de mettre en place une façon de fonctionner, et finalement le budget la dernière fois, donc il y a eu 5 voix contre sur 79. Donc petit à petit, bon.
Une quasi-unanimité.
Voilà, donc moi ce que je souhaite, si vous voulez, les successions, c'est toujours très très difficile. Hein,
oui, bon, on le sait, et ça
mais
s'est
je
prouvé.
Pense que les choses vont se simplifier d'elles-mêmes devant l'obligation de convaincre les électeurs le moment venu. Et je crois que au-delà des postures des égaux, ce qu'il faut, c'est que les gens se rassemblent. Et donc moi, ça c'est le message que je passe, parce que justement, pour revenir à ce que vous disiez, s'il y a un désaveu de la politique, c'est que les gens n'ont pas l'impression que finalement on est dans le concret.
Dans le concret, et dans le rassemblement.
Et donc il faut expliquer pourquoi on essaye de mettre en place des projets qui sont des projets à long terme, qui ne vont pas forcément rapporter électoralement, mais qui, quelque part, dans quelques années, permettront d'avoir un territoire pour nos enfants, où on vit, où on travaille.
Voilà, donc de la patience. Il faut que les électeurs et les citoyens soient patients. Merci en tout cas, Jacques Bascou, d'avoir fait ce tour d'horizon actuel. Et je précise que les prochains invités seront, alors dans l'ordre, Catherine Goury, maire de Périac-de-Mer prochainement. Nous recevrons également Bertrand Malquier, secrétaire général de Nouveau-Narbonne. Un petit peu plus tard, Guy Sier, et puis etc. etc. Je vous remercie, Jacques Bascou, et vous, amis auditeurs, d'être restés à notre écoute, et à la semaine prochaine.